Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Réaction très vive de l'ensemble de la profession du logement, de la construction contre le plan présenté par Elisabeth Borne. On passe de l'ambulance au corbillard, c'est le coup de grâce. Enfin bref, voilà, les réactions sont unanimes pour s'opposer à ce qui a été présenté hier. De son côté, Bercy, avec la mort programmée du dispositif Pinel et les restrictions sur le prêt à taux zéro, espère réaliser à terme 2 milliards d'euros d'économies. Fondamentalement, une question qui se pose après la publication de ce plan sur le logement, c'est: est-on face à un secteur qui ne peut pas vivre s'il n'est pas subventionné, si on ne lui donne pas des béquilles fiscales, puisque clairement quand même on est en train de retirer un peu la voilure avec ce qui a été présenté hier. Bruno Le Maire menace très clairement les industriels qui refuseraient de rouvrir des négociations avec les distributeurs. Il fera du name and shame fin juin. Il y aura une sorte de mur de la honte des marques qui refuseraient de baisser leurs prix et de renégocier les prix. Et il menace une fois de plus d'utiliser l'arme fiscale pour contraindre tout le monde de revenir à la table des négociations le 15 juin. C'est une enveloppe historique débloquée par l'État au profit de la future usine de semi-conducteurs prévue en Isère à Crolles. Il s'agit de 2,9 milliards d'euros. Ça va dans le sens de ce qu'Emmanuel Macron avait un peu arrêté comme nouvelle doctrine lors de cette grande semaine consacrée à l'industrie. Bah écoutez, maintenant, on va faire comme les Américains. On va faire comme les Chinois. On va faire de l'Europa first. Alors, on parlera de ça. Et puis, le transport aérien qui est en train tout simplement d'effacer la crise Covid. Ah oui, j'ai aussi un super plan de simplification qui sera présenté demain par deux députés qui doit nous permettre d'économiser 15 milliards d'euros. On en parlera avec Guillaume Poitrinal. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Guillaume Poitrinal qui a travaillé sur la simplification sous François Hollande et qui est chef d'entreprise aujourd'hui, qui a fondé WO2, le promoteur immobilier bas carbone. Emmanuel Combes, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à la Schema Business School. Et vous avez publié les chroniques d'un économiste décalé, aux éditions Concurrence l'opinion. Vous êtes un spécialiste de la concurrence. Votre avis m'intéressera sur cette posture un petit peu, on bombe le torse en Europe face à la concurrence justement de la Chine et des États-Unis. Robin Rivaton, bonjour.
Bonjour.
Directeur général de Stonal, fondateur de Real Estate et membre du conseil scientifique de la Fondapol. Vous avez publié Souriez, vous êtes filmé, le livre qui vous fera aimer la concurrence aux éditions de l'Observatoire.
Surveillance.
Oui, la concurrence, j'ai dit.
Mais la concurrence aussi. Oui.
La surveillance aux éditions de l'Observatoire. Et Guillaume qui a publié Pour en finir avec l'apocalypse, une écologie de l'action chez Stock. Bon, j'ai donné les principaux éléments là de l'actualité sur le plan Borne. Est-ce que ça répond à la crise du logement, le plan qui a été présenté hier selon vous, Robin Rivaton? C'est un secteur que vous connaissez particulièrement bien.
La crise du logement, elle est un peu compliquée parce qu'elle est de deux natures. Il y a une crise conjoncturelle et il y a une crise structurelle. La crise conjoncturelle, c'est quoi? C'est que les populations traditionnelles qui achetaient de logements, de l'immobilier neuf, n'ont plus de capacité de pouvoir d'acheter l'immobilier. Tout simplement parce qu'on s'est pris la plus grosse hausse des taux d'intérêt directeurs et des taux d'intérêt commerciaux dans l'histoire économique moderne. Ces populations, c'était qui? C'était les primo-accédants, donc les ménages qui achètent pour la première fois leur bien immobilier. C'était les investisseurs bailleurs qui achètent pour faire de la location. Et c'était les bailleurs sociaux. Ces trois catégories se prennent de plein fouet la hausse des taux. Les bailleurs sociaux, ils sont indexés en taux variable sur le livret A. Les ménages modestes, primo-accédants et les investisseurs locatifs, on leur dit grosso modo, vous empruntez à 1, maintenant vous empruntez à 4. Évidemment, ça marche plus. Donc il y a une crise conjoncturelle qui fait que les promoteurs aujourd'hui ne lancent plus des programmes de construction, simplement parce qu'ils trouvent plus de gens en phase 2 pour acheter.
Il n'y a plus personne pour le réserver, le programme.
Pour resolvabiliser ces gens, c'est pas avec quelques dizaines de millions d'euros. On parle d'une perte de pouvoir d'achat immobilier de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Les taux d'intérêt ont réduit le pouvoir d'achat immobilier des accédants de un tiers jusqu'à 40%. Donc, pour resolvabiliser cette clientèle à la hauteur de ce qu'elle était il y a encore 2 ans, il faudrait dépenser des dizaines de milliards d'euros. Donc, évidemment, tout plan d'aide et déceptif. Là, le problème, c'est que en plus, se rajoute quand même une volonté de Bercy assez indiquée. Hein. Gabriel Attal l'a dit les 2 dernières semaines, donc il n'y avait pas trop d'espoir. Il a dit que le logement sera mis à contribution dans la réduction des déficits publics. Voilà, on a enlevé certains dispositifs de soutien à la demande. Donc, conclusion, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les promoteurs vont arrêter de lancer des programmes de promotion neuves. Ça va prendre du temps. Hein. On arrête d'acheter les terrains aujourd'hui. Donc, on arrête d'acheter les terrains aujourd'hui. Dans 2 ans, on arrêtera de lancer ces promotions. Donc, se crée un creux. Les entreprises de construction, ils licencient les gars qui mettent les plans dans une cabane sur le chantier pour faire le chantier. Et quand vous voudrez redémarrer, on va pas redémarrer en appuyant sur un bouton. Ça va prendre 5 ans. Donc on va sur un creux de production dans 5 ans. Et là, c'est là où ça rejoint la crise structurelle. C'est que on va vers 10 ans de sous-production de logements. Et dans 10 ans, qu'est-ce qui se passera? On n'aura pas une crise conjoncturelle. On aura une crise structurelle en disant, il manque dans le stock français 1 million de logements. Les gens sont assez chez eux. Il n'y a pas de mobilité pour aller travailler à Paris. Les infirmières, elles préfèrent pas aller en métropole. Et ainsi de suite, c'est ainsi de suite, et ainsi de suite. Les gens qui voudraient divorcer, ils restent ensemble dans leur appartement parce qu'ils n'ont pas d'option. Donc, malheureusement, on se cogne dessus. Et c'est ça la réalité de la suroccupation des logements. Donc, une crise conjoncturelle qui n'est pas traité, qui ne sera pas traité, qui va finir par aggraver une crise structurelle à 10 ans.
Ce que vous venez de me dire, c'est que juste et vous réagirez bien sûr Guillaume Patenal et Emmanuel Combes, ce que vous venez de me dire quand même, c'est que le plan présenté pour répondre à la crise du logement risque en fait de l'aggraver.
Ah mais il ne fait rien.
Ouais. Il ne fait rien, voire
il l'aggrave. Il pourrait. On a juste un volet. Encore une fois, on pourrait dire que le logement ne mérite pas d'être massivement aidé. Pourquoi pas? C'est un acte de politique publique. Mais alors, par contre, il y a une chose qu'il faut faire. Il faut le déréglementer. Le déréglementer. Et j'assume le mot. Le mot, c'est pas d'enlever de la norme, c'est le déréglementer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait produire au logement des biens d'une qualité qui le rendent inaccessible aux classes populaires, aux classes moyennes. C'est comme la voiture électrique. Encore pire même.
C'est-à-dire que c'est bien pire.
D'avoir des logements verts, mais si plus personne ne peut se les payer, c'est comme la voiture.
Mais c'est même pas pyramide. Il faut d'abord loger, après loger bien, et enfin loger vert. D'abord, il faut loger.
Mais le plan d'hier, il est quand même à côté de la plaque. Allez-y, Guillaume.
Donc, il s'est trouvé que par le hasard des choses, pendant 8 ans, j'ai été promoteur immobilier de logements. Donc, on a fait avec mon camarade Zivkovic 2000 logements l'année dernière. Puis, c'est une entreprise qu'on a vendue à Altaria que j'ai. Mais. J'ai été stupéfait, puisque moi, c'était pas mon ADN. Mon ADN, c'était de faire à l'époque, des centres commerciaux et des bureaux, des centres de congrès expo. J'ai été stupéfait de voir le niveau de régulation de cette économie du logement. En fait, c'est soviétique, faut se raconter, faut passer l'histoire. Et en fait, c'est normal que ça aboutisse à la pénurie. De telles réglementations, c'est normal que ça aboutisse à la pénurie. Vous faites une opération de logement, vous avez tout de suite affaire à 2 ou 3 niveaux de collectivité locale. Il faut savoir qu'on a enlevé la maîtrise du PLU des mains du maire. Aujourd'hui, c'est un établissement public territorial, une communauté de communes qu'il faut aller voir pour solliciter une modification de PLU. Puis ensuite, vous avez une avalanche de réglementations qui vous explique, jusqu'à encore il y a très peu de temps, qu'il fallait une prise péritelle, voyez, dans le truc. Donc vous avez... qui vous explique en effet les normes thermiques, les normes écologiques, et puis à chaque fois on en a rajouté, avec des permis de construire qui aujourd'hui font 1 mètre, 1,50 mètre de haut, de tas de papiers, des services instructeurs en face qui vous disent, vous savez, je vais pas tout lire, hein, parce que, excusez-moi, hein, la direction de l'urbanisme, on n'est pas organisé, on va pas tout lire. Mais faites très attention, notamment à 4 ou 5 cotes, parce que c'est là où il y a les recours. Hein, donc vous faites très très gaffe avec
ça, que vous décrivez,
et ensuite vous
Guillaume,
tapez des recours. Donc la production s'est allongée, le temps de production s'est allongé, tout ça finit par des coûts, du temps perdu, et en effet, c'est très très cher. Et puis surtout, il y a beaucoup de gens qui ne produisent plus. Donc en fait, on a une production qui est extrêmement arrêtée. Et je ne vous parle pas après des mairies qui vous disent, finalement, en fait, on arrête complètement de filer des permis de construire parce que on veut des espaces verts, parce qu'il faut que la ville respire, parce que ceci, parce que cela. La réalité, Robin l'a dit, c'est qu'en fait, on a une demande qui aujourd'hui est en forte croissance. Parce que il a tout d'un bête, donc je vais pas le refaire, mais il y a en plus l'allongement de la durée de vie. Donc qui fait que les gens restent plus longtemps chez eux parce qu'il y a l'allongement de la durée de vie. Et donc tout ça, ça fait que les nouvelles générations n'arrivent pas à se loger. Et en fait, pour faire très court, le PTZ et tout ce qui est supprimé aujourd'hui, c'était juste les quelques béquilles qui permettaient quand même malgré tout d'avancer dans un monde, une fois encore, hyper administré. Donc qu'est-ce qui manque à cette réforme? Une grande libéralisation pour que l'offre puisse faire face à la demande. Et puis, la dernière chose qu'il faut quand même dire, c'est que cette production immobilière résidentielle est super taxée, oui. Puisque je vous rappelle que vous allez payer 20% de TVA. Cette TVA, vous êtes un particulier, vous, donc c'est bien un impôt. Donc vous avez 20% de TVA, que cette TVA, elle concerne à la fois les travaux, mais également le foncier. Donc dans des bilans promoteurs, vous avez très vite 1000 euros, 700 euros, 500 euros de TVA qui concerne le foncier. Excusez-moi, j'ai, moi promoteur, acheté un foncier que je revends à un primo-accédant, où est la valeur ajoutée? Eh bien l'État me prend 20% de cette valeur de foncier.
Je fais réagir Emmanuel Combes, mais ça m'amènera très très vite à parler du rapport que doivent présenter deux députés demain. Justement, ils disent qu'il faut passer au concept de territoire zéro contrôle. Lâcher la bride aux villes, aux villages, aux collectivités locales. Et c'est vraiment l'idée d'une grande simplification. Mais moi, ce qui me terrifie, c'est que ce plan annoncé avec tambours et trompettes ne répond à aucune des problématiques que vous venez d'évoquer. Emmanuel Combes, allez-y.
Ce que je trouve passionnant dans ce sujet, moi je suis microéconomiste, c'est on voit les effets pervers d'un excès de réglementation. Donc comme vous venez de le dire, d'abord premier effet pervers d'une réglementation, c'est des délais et de l'insécurité juridique. Or l'insécurité juridique, ça dissuade. Il y a des projets qui n'ont pas lieu parce qu'en effet, je me dis si c'est pour me prendre des recours, etc. Mais il y a un deuxième effet pervers de la surréglementation. Et ça c'est très français. C'est je fais des règles en pensant que les ménages, ceux qui achètent, ne vont pas jouer avec la règle. Vous pouvez prendre n'importe quelle règle, le PTZ, moi je vais prendre l'encadrement des loyers, parce que c'est très connu, il y a plein d'études là-dessus, bah ça a plein d'effets pervers, parce que le ménage, quand vous capez le loyer, bah d'abord celui qui est propriétaire, qu'est-ce qu'il va faire ? Bah, il va le retirer du marché. Il y a des études sur le Québec qui montrent que bah, suite à la mise en place d'un encadrement du loyer, bah, le propriétaire il peut en faire un autre usage. Point plus important.
Le mettre sur Airbnb, on l'avait vu à Paris. Hein.
Point plus important, celui qui est déjà locataire, il n'a plus envie de bouger. En se disant, si je bouge, parce que j'ai un job ailleurs, ok, j'ai un job ailleurs, mais je vais perdre l'avantage de ce loyer encadré. Parce qu'ailleurs, j'aurai aussi un loyer encadré, mais je n'aurai peut-être pas accès, je vais devenir un outsider. En fait, ça incite à rester dans le logement. Et ça a un impact sur la mobilité, sur le marché du travail. Il y a une étude sur la Suède très intéressante qui montre que l'encadrement du loyer a eu un impact, tenez-vous bien, sur le taux de chômage de longue durée. Des personnes préfèrent se dire, je ne prends pas un job ailleurs parce que moi, je sécurise mon logement. Autre effet pervers, je suis un propriétaire, mon loyer est encadré. Je n'ai pas forcément intérêt à faire des travaux, à le mettre aux normes. Et on s'aperçoit qu'en réalité, il y a un problème ensuite de qualité de l'offre. Tout ça pour vous dire quoi ? PTZ, même chose. Il y a eu des études très intéressantes sur les effets pervers du PTZ.
On retrouve le PTZ dans les prix.
D'abord, on les retrouve dans les prix. Ça, c'est le truc standard. Mais il y a une étude, notamment sur Lyon, qui montre un truc très intéressant. C'est que ça a donné accès à la propriété à des ménages modestes. Mais où ? Dans des quartiers extrêmement excentrés. Et ils vous disent, avant, on était dans des HLM. Maintenant, ils appellent ça des HLM à plat. On est dans un lotissement à 30 km, 40 km de Lyon et il n'y a pas de transport en commun. Et du coup, on a dû arrêter de bosser parce qu'en réalité, on est isolé. Donc, vous voyez, tous ces effets, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est sur des comportements micro, à la fois du côté des offreurs et du côté de celui qui achète ou celui qui loue. Et tous ces effets de comportement sont extrêmement compliqués à appréhender. Et à la fin, vous avez quoi ? 30 milliards d'euros à peu près chaque année de dépensés dans l'immobilier, dans le logement ?
32, oui. Hein ? 32 milliards d'euros.
Pour un effet,
80 milliards d'euros de taxes.
Pour un effet qui est quand même pas extraordinaire. Donc, je suis assez d'accord. Ouais. Revenons quand même aux fondamentaux. Un excès de réglementation, ça conduit à énormément d'effets.
Le truc rigolo, pour être vraiment dans le concret, le truc rigolo.
Moi, jamais.
Vous laissez conseiller à un moment donné, vous savez, les personnes à mobilité réduite sont malheureuses en France. Heureusement, elles sont pas très nombreuses, mais elles sont malheureuses en France. Et donc, on a obligé, là, récemment, c'était encore, pour vous montrer que ce n'est qu'un accroissement et une accumulation de normes. On a obligé tous les nouveaux appartements à avoir des douches à l'italienne. La douche à l'italienne, c'est la douche sans seuil. Alors, à l'Assemblée, les gens disent, c'est facile de faire une douche sans seuil. Mais je vous jure que de faire une douche sans seuil, en respectant les normes d'épaisseur de plancher, c'est considérable. Ça va coûter 1000 à 2000 euros par logement. Eh ben, je suis désolé, si vous voulez, pour un usage qui est quand même, excusez-moi, parfois exceptionnel, je préfère qu'on dise, vous êtes obligé de faire un appartement comme ça ou qu'on revienne. Mais tout le monde aujourd'hui va avoir des appartements pour les personnes à mobilité réduite. Il y en a certains qui n'en ont pas besoin.
Oui, mais je me souviens d'Alain Dinin de Next City qui m'expliquait, on m'oblige à faire des résidences étudiantes 100% aux normes handicapées. Il n'y a pas 100% d'handicapés sur les campus.
C'est tous les appartements d'un immeuble. Même si vous faites par exemple un appartement, ce qu'on appelle penthouse, donc le dernier étage qui est avec un escalier, votre appartement doit être considéré pour une personne à mobilité réduite.
Vous ne pouvez pas savoir. Je donne juste un autre exemple pour que vraiment on comprenne ce que c'est que la réglementation dans le truc. Nous sommes, nous, promoteurs immobiliers, obligé, quand on fait du résidentiel, de faire la cuisine et la salle de bain. Le nombre de fois où il y a des gens qui sont venus en disant « Mais attendez, mais la cuisine, elle est dégueulasse, c'est pas moi. Moi, j'ai une cuisine rose. Ma femme adore la cuisine rose. » Qu'est-ce qui se passe ? Le type, il achète, on lui livre, il prend la cuisine et la salle de bain, il la casse. Je n'ai pas le droit de vendre un appartement non équipé. J'ai pas le droit de vendre un appartement qui n'est pas peint à un peintre, qui pourrait le peindre lui-même. C'est ça, la France.
Et Nicolas, ce qui est intéressant, je trouve, en France, mais ça vaut pour tous les secteurs. Là, on parle de l'immobilier, on ferait l'urbanisme commercial, c'est la même chose. On fait une règle, la règle ne va pas marcher. puisqu'elle va avoir des effets pervers. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu de supprimer la règle, on va rajouter, c'est le millefeuille, hein, on va rajouter une sur-règle. Bah, regardez, pour le Pinel, c'était les zonages. Alors on fait un zonage, mais on s'aperçoit que ça marche pas, que finalement le zonage n'était pas le bon, donc on fait une réforme du zonage. Et en fait, vous avez toujours une course-poursuite entre la règle et le comportement des ménages qui lui-même est stratégique. C'est un peu naïf de penser qu'on fait une règle et que les gens vont s'adapter.
Romarie Vatton, allez-y. J'aimerais juste qu'on évoque quand même... Enfin, oui, continuez. Oui.
Non, juste pour donner deux exemples de dérégulation qui sont absolument nécessaires. Aujourd'hui, on a deux mesures qui vont impacter très fortement le secteur du logement. Le zéro artificialisation nette et les sorties du parc locatif, les étiquettes énergétiques F, G et E d'ici 2034, interdiction de location.
2034, c'est pour les E. Hein.
Mais, ouais, pour, mais pour les G, c'est... 2028 et 2025 et 2028. C'est des mesures qui n'ont aujourd'hui, si quelqu'un peut trouver les études d'impact, ces mesures, les études d'impact sont absolument nulles. C'est-à-dire qu'elles n'existent quasiment pas. Et donc, c'est des mesures qui vont avoir des effets extrêmement pervers. Le zéro artificialisation nette, c'est de dire qu'on n'a pas le droit d'artificialiser des sols en 2050. Il est surtranscrit et donc se retrouve appliqué dès aujourd'hui dans les PLU. Il est en train de se retrouver appliqué. Donc, on est en train de stériliser du foncier en quantité absolument gigantesque en disant que l'objectif est de 2050, il faut l'appliquer dès maintenant. Et ça va avoir des conséquences dramatiques sur le logement. Ça, c'est des choses qu'il faudrait dès aujourd'hui faire un moratoire dessus en disant on doit avoir des vraies études d'impact. L'étude d'impact qui a amené aux ZAN, c'est une étude totalement bidonnée qui dit qu'on artificialise un département tous les 7 ans. C'est faux, archi-faux, c'est un département tous les 23 ans. Donc on n'artificialise pas les sols en France, on a un pays qui est vide, on a une densité par habitant...
Et on compte pas ce qui est désartificialisé.
Continuez.
On a un pays qui est vide, qui a une densité beaucoup plus faible que celle de ses voisins allemands, britanniques, même italiens. Donc on a de la place dans notre pays, on se met des barrières absolument gigantesques, et tout ça, encore une fois, va avoir des conséquences pour les ménages les plus modestes.
C'est bien ça, et juste un mot quand même sur l'autre aspect que vous évoquiez, parce que moi je pense que là, effectivement, l'effet sera colossal, c'est ces fameuses lettres F, G qui vont siphonner et avec, l'offre locative, tout simplement.
Et avec des. Encore une fois, la norme, ça devient des usines à gaz. Il faut savoir comment vous calculez un DPE. Quand vous êtes à Nice.
Donc, diagnostic de performance.
Diagnostic de performance. Ce que vous devez demander à chaque fois. Quand vous êtes à Nice, vous payez moins en chauffage que quand vous êtes dans les Alpes. Ça paraît assez logique dans une station. Aujourd'hui, le diagnostic, il dit vous êtes en dessous de 400 mètres ou au-dessus de 400 mètres. Bah, en fait, il y a plus de gradation, quoi.
J'entends ton point sur la nécessité d'évaluer, d'avoir des études d'impact. On l'a jamais fait. Oui, pas plus dans l'immobilier qu'ailleurs. C'est pas la culture française. La culture française, c'est j'ai une idée. On dit souvent, on fait pas de la littérature avec des bons sentiments. On fait pas des bonnes lois avec des bonnes intentions. Mais c'est ça. Ça part d'une bonne idée. Mais à la fin, il y a jamais cette analyse.
Oui, mais le problème, c'est que
t'as jamais d'analyse coût-bénéfice.
Dans la complexité administrative sur laquelle on va revenir, les amis, vous avez aussi du lobby privé. Parce qu'excusez-moi, mais la mise aux normes environnementales, c'est aussi beaucoup de business.
Mais pardon,
du privé. Et donc vous avez...
C'est aussi de l'économie, ça s'appelle la capture du régulateur.
Il faut aussi que les pouvoirs privés, qui sont souvent représentés ici, fassent leur mea culpa. C'est-à-dire que moi j'ai quand même vu, j'ai vu pour les ascenseurs, mais je l'ai vu pour les produits isolants, si vous voulez, on a quand même, nous, des gens qui demandent de la réglementation.
Mais c'est évident, Guillaume. Vous savez pourquoi?
On peut se tutoyer.
Parce que l'insider, moi je l'ai toujours dit, l'insider est ami de la régulation. Moi qui suis un spécialiste de la concurrence, c'est le meilleur moyen de bloquer l'entrée de nouveaux entrants. C'est sympa à dire. Mais bien entendu, la complexité administrative, c'est très bon pour l'insider parce qu'il maîtrise tout l'historique de la régulation. La complexité est l'allié de l'insider.
J'ai l'impression qu'il y a sûrement des gens qui nous écoutent là qui se disent tiens, ce matin chez Dose, ils sont contre la planète. Parce qu'on est en train de dire qu'on va trop vite.
Ouais, alors c'est le problème de ces lois quand même qui sont des mesures compliquées. C'est-à-dire, qui est-ce qui peut revenir en disant ah bah moi j'ai une super idée, les amis, je suis contre l'artificialisation, la non-artificialisation des sols.
C'est des bons sentiments.
C'est dur d'aller là-dessus, c'est dur de porter ce message-là, politiquement parlant.
Vous avez fait partie de la commission REPSAMEM qui avait rendu quand même énormément de travaux, alors assez complexes, mais c'est toujours sur des sujets complexes qu'il faut avoir des réflexions complexes. Quand vous avez entendu le plan Borne hier, votre première réaction, Robin?
C'est ce qu'on a fait en moins bien.
C'est-à-dire?
C'est exactement ce qu'on avait écrit, sauf que là, c'était encore moins détaillé et moins précis dans la façon de le mettre en œuvre. Si on veut mettre en place de la dérégulation, il faut être extrêmement précis. C'est dans le détail qu'il faut aller jouer là, dans le texte.
Enfin, quand on parle de dérégulation, ce qu'on peut faire peur à nos auditeurs, c'est pas l'idée qu'il n'y ait pas de règles, c'est des règles. Simples, claires, transparentes.
Il faut pas de règles. Aujourd'hui, dans l'urbanisme, il y a des endroits où il faut pas de règles. Je donne un exemple. Aujourd'hui, si vous avez une parcelle avec un seul logement, vous devriez pouvoir construire un deuxième logement sans, avec une simple déclaration a posteriori.
Pardon, ce qui s'appelle une règle minimale. Pardon.
D'accord, mais c'est ce qui se passe en Californie, c'est ce qui est en train de permettre à la Californie de construire des logements, c'est de dire il n'y a pas de règle.
On va marquer une pause. Si je vous dis, Robin Rivaton, ce plan qui a été présenté, c'est juste un plan d'économie de dépenses publiques.
Exactement.
Vous savez, je transforme en France des bureaux en logements, des bureaux en logements, j'ai besoin d'un énorme permis de construire, il faut savoir. Alors que je change rien à l'extérieur, si je veux, je fais que des travaux à l'intérieur. Et je peux vous dire que de transformer des bureaux, en ce moment on a trop de bureaux, on n'a pas assez de logements, transformer des bureaux en logements, c'est la guerre.
J'ai envie de croire que le plan de simplification qui va être présenté demain, peut-être cette fois-ci aboutira à quelque chose. Le Code général des collectivités territoriales a triplé de volume entre 2002 et 2022. Le Code de l'urbanisme a grossi de 80 000 mots en 10 ans, soit une hausse de 44%. Voilà. Il y a 438 opérateurs d'État qui concentrent 400 000 emplois publics, qui parfois font le même boulot. Il y a 314 commissions et instances consultatives. Bref. On en parlera parce que Guillaume a sûrement un avis là-dessus.
Est-ce la bonne décision? Est-ce trop tard pour moi? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Emmanuel Combes, professeur à l'Université Paris à Panthéon-Sorbonne et à la Skeba Business School, qui a publié de nombreux ouvrages, notamment La Concurrence aux Presses Universitaires de France, mais aussi Les Chroniques décalées d'un économiste aux éditions Concurrence l'Opinion. Il y a concurrence partout quand on... Robin Rivaton, il est directeur général de Stonal, fondateur de Real Estate et membre du conseil scientifique de la Fondapol. Auteur de Souriez, vous êtes filmé, le livre qui vous fera aimer la surveillance aux éditions de l'Observatoire. Guillaume Poitrinal, fondateur de WO2, promoteur immobilier bas carbone, qui a publié Stock, qui a publié Pour en finir avec l'apocalypse, une écologie de l'action aux éditions Stock. Il y a un auditeur qui pose cette question, Robin Rivaton, malgré la hausse des taux, va-t-on donc vers une nouvelle augmentation des prix de l'immobilier du fait de la pénurie à venir?
Oui, alors au moins une stabilisation, c'est-à-dire que il y aura quand même des effets conjoncturels, il y a un peu moins d'acheteurs aujourd'hui sur le marché, donc ça a forcément un petit peu d'impact, mais quand on dit on voit une baisse des prix immobiliers, on voit une baisse de moins 1, moins 2, moins 3, après une hausse de plus 20, donc c'est une baisse qui reste assez quand même mineure. Donc aujourd'hui...
Non mais à long terme, oui, là, à long terme, je peux répondre, oui, on va vers une pénurie.
C'est sûr. Ça, une pénurie, d'accord. Mais justement, l'impact sur les prix, c'est la question qui est posée.
On va vers une super pénurie. Il n'y a plus de capital. Moi, je vais vous dire un truc. Aujourd'hui, il n'y a plus de lancement de projets. Les promoteurs, je crois que nos amis de Nexity ont annoncé un millier de licenciements, plus de 1000 licenciements chez Nexity, promoteurs immobiliers. Excusez-moi, ça va faire des programmes en moins. À la fin, c'est des mètres carrés en moins. Donc, de toute façon, les tensions entre l'offre et la demande, elles n'ont pas fini de se jouer. Mais il y en a ceux qui pourront dire, je vais dans un logement social. Attention, donc, même le logement social va être en être victime parce qu'aujourd'hui, sans accessions, il n'y a pas de logement social. Le logement social, il est fait à l'appui des opérations d'accession immobilière. Donc, il va y avoir une pénurie, oui, à 3-4 ans.
Et donc, les prix,
à 3-4 ans.
Donc les prix ne vont pas baisser.
Non. Alors, il y aura des prix encadrés pour les quelques-uns qui auront la chance de pouvoir accéder aux prix encadrés, parce qu'ils sont là depuis longtemps, alors ils n'ont pas bougé, évidemment.
Les prix encadrés, parce que, des prix de location.
Oui, des prix de location encadrés. Il y aura des loyers qui seront des loyers sociaux, bien sûr.
Des prix à l'acquisition.
Et puis, pour ceux qui seront dans les tranches où on ne pourra pas bénéficier d'aide, etc., la fameuse classe moyenne, eh bien, ça va être, et désolé, vous allez devoir faire une demi-heure, trois quarts d'heure de transport pour aller travailler, ou alors il va falloir payer un prix considérable et des intérêts qui seront peut-être encore considérables parce que je ne sais pas du tout où seront les taux directeurs dans 4 ans ou dans 5 ans.
Emmanuel Combes,
vous... Non, je vais revenir un petit peu sur l'effet de la hausse des taux. Ce n'est pas seulement un effet sur le montant emprunté, hein. Il y a aussi ce qu'on appelle un effet crédit crunch. La banque ne prête pas. Lié un ménage, compte tenu de la hausse des taux, c'est non, c'est pas j'achète plus petit. Parce qu'on a souvent cette image, quand les taux montent, bah, au lieu d'acheter 50 mètres carrés, je vais acheter 45 mètres carrés. Non, c'est tout simplement votre dossier, vous n'êtes pas éligible. Plus le taux de l'usure, etc.
Bah, c'est pour ça d'ailleurs que les professionnels disaient qu'il fallait absolument lâcher la bride aux banques, notamment sur les conditions d'octroi des crédits.
Exactement.
Sur le taux d'effort, pas que le taux d'usure. Mmh. Qui reste donc mensualisé jusqu'à la fin de l'année. C'est l'une des seules annonces qui concerne l'écosystème du crédit bancaire, mais sinon le taux d'effort n'a pas été modifié et la durée maximale à 25 ans pour les emprunts n'a pas non plus été modifiée. Il y a une petite fenêtre de dérogation, mais qui est très faible, qui est accordée aux banques sur 20% des dossiers qu'elles libèrent. Il y a un sujet qui a retenu votre attention dans l'actualité du jour, et on est un peu dans le même univers, ce sont ces 150 grandes enseignes qui veulent on encadre les loyers. En fait, elles veulent bénéficier des mêmes règles d'encadrement des loyers oui. que celles qui sont accordées aux ménages oui, et aux PME. Ce qui veut dire qu'on limite la hausse de l'IRL, l'indice de référence des loyers, de 3,5% à 3,5%.
C'est ce vieux rêve qu'ont tous les locataires de retourner à la loi de 48, le fameux encadrement des loyers. Ce qui fait qu'au bout de 10-15 ans, en fait, vous avez une déconnexion entre le loyer de marché et votre loyer contractuel. Et donc, en matière de commerce, c'est bingo. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, le commerçant, quand même, sa valeur de fonds de commerce, c'est sa capacité à vendre son bail. Ils ne vendent plus leurs enseignes, les commerçants. Ils ne vendent plus leur savoir-faire. Leur clientèle, elle passe devant le commerce. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un fonds de commerce ? Aujourd'hui, c'est un bail. Et c'est un bail qu'on va vendre, en fait, qu'on va vendre et sur lequel on peut emprunter, ce qu'on peut gager, etc. La richesse du commerçant, c'est son bail. Évidemment, le bail avec un loyer bloqué, qui est le loyer d'il y a 30 ans payé en monnaie de singe, excusez-moi, c'est bingo. Bien sûr que c'est bingo. Ça vaut beaucoup d'argent. Et donc, moi, j'ai vécu pendant de très nombreuses années avec cette rengaine, si vous voulez, de « il faut bloquer les loyers commerciaux ». Et en fait, il faut faire un énorme cadeau à Zara, à Gap, à H&M, qui sont des milliardaires, bien plus puissants que tous les bailleurs commerciaux possibles. Et évidemment, sans regarder qu'à partir de ce moment-là, on n'a plus d'offres. Donc ça veut dire, et puis on n'a plus non plus de transmission. Pourquoi ? Parce que le jeune commerçant qui veut s'installer, lui, il faut qu'il paye tout de suite une somme considérable pour avoir accès au faible loyer.
Guillaume, on rejoint notre débat tout à l'heure, insider, outsider.
Exactement.
En réalité, le blocage des loyers profite forcément à celui qui est déjà là.
À celui qui est en place, et c'est le fameux système lequel, une fois que je suis arrivé, je tire l'échelle pour que le jeune entrepreneur
ça marche,
hein. ne puisse jamais accéder aux meilleurs emplacements commerciaux.
La concurrence, ça marche.
On est en plein Frédéric Bastiat, ce qui se voit, ce qui ne se voit pas. Et ces mesures qui donnent l'impression d'être des mesures bien généreuses finissent par pénaliser les gens.
Et pas seulement ça, Nicolas. La concurrence, c'est pas seulement la concurrence entre ceux qui sont là. On l'oublie trop souvent en France. La vraie concurrence, c'est l'entrée sur le marché.
Alors, ce que je vais vous dire aussi pour finir, c'est la bonne nouvelle pour les commerçants aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des baisses de loyers, il y a eu des ajustements de loyers. Pourquoi ? Parce que le bailleur de centre commercial, le bailleur de rue, il n'a pas envie de voir le commerçant baisser le rideau. Il n'a pas envie d'avoir un espace vide. Et donc, les mécanismes de marché jouent. Aujourd'hui, quand vous installez, vous avez plus de franchises, vous avez plus d'investissement qui est fait par le bailleur. Et donc, l'équilibre est en train de se repositionner sur certains mauvais emplacements commerciaux ou moyens emplacements commerciaux où on voit les loyers baisser.
Robert, il va
juste en
réagir
mot,
à ça.
Vous savez,
pas quoi,
désormais, il existe pour le loyer résidentiel, il existe un plafonnement des loyers, donc ville par ville, on vous dit le loyer maximum que vous pouvez toucher. Et l'année dernière, l'État a bloqué la progression des loyers en disant elle va être trop importante, il faut la bloquer. Et cette année, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a recommencé. Donc il a rebloqué
encore la pour max.
Et donc il y a certaines mauvaises langues qui disent le résidentiel c'est un produit anti-inflation, sauf quand il y a de l'inflation, et donc c'est quand même assez problématique.
Et donc on voit aujourd'hui les investisseurs en résidentiel qui sont en train de se retirer progressivement. Je rappelle qu'ils vont payer, ils payent l'IFI pour certains. Donc vous avez quand même une grande partie du loyer qui est mangée par l'impôt sur la fortune immobilière.
La taxe
et puis
sociale.
Après vous avez les taxes qui viennent sur les revenus. Et quand vous avez même plus un produit anti-inflation à mettre en face, la logique économique et financière de l'investissement, alors là pour le coup financier, le fameux bailleur qui va fournir ou louer des logements, cette logique financière, elle est en train d'être rongée. Donc on va avoir une pénurie de capitaux qui va s'additionner de fonds propres cette fois-ci, pas de dettes, de fonds propres.
Ça fait assez longtemps, très longtemps d'ailleurs, Robert Yvaton, que vous prévenez sur la crise du logement qui est devant nous. 24 heures après le plan Borne, vous diriez toujours la crise du logement est devant nous. Quoi.
Non, mais elle va arriver fortement.
Bon, ils ont raison à ceux qui disent qu'on passe de l'ambulance au corbillard et que c'est le coup de grâce en fait.
Ouais, mais encore une fois, pour les ménages les plus modestes, c'est là où c'est terrible. Ouais, parce que les gens qui font ce plan, ils seront pas concernés par la pénurie de logements. Ils auront toujours un logement.
Bruno Le Maire a tapé du poing sur la table une fois de plus hier.
C'est la France coupée en deux.
Il met une pression de plus en plus forte sur les 75 principales multinationales de l'agroalimentaire, enfin du cas qui doivent entrer ou pas en négociation avec la distribution pour obtenir des baisses de prix visibles à compter du mois de septembre. Il menace Emmanuel Combes de faire du name and shame. Fin juin, ceux qui n'ont pas rouvert de négociation, ces industriels, ce sont Danone, Nestlé, Coca, Unilever, Mondelez, enfin bon, vous les connaissez tous, Lactalis par exemple. Eh bien, je publie les noms, lui c'est un mauvais bonnet d'âne, et donc le consommateur sera informé et pourra renoncer à prendre le produit de cette marque dans les rayons et le mettre dans son panier. Vous y croyez ?
J'y crois au sens où je pense que c'est très efficace.
Ah oui.
Et ensuite, je vais expliquer que dans le cas présent, ça me semble quand même plus que problématique. Oui, c'est très efficace. Alors, quand j'étais à l'autorité de la concurrence, c'était pas tout à fait du name and shame, mais quand on condamnait une entreprise, on met une sanction pécuniaire et également une injonction de publication dans la presse. Je peux vous dire qu'une injonction de publication dans la presse, ça porte atteinte à votre réputation et ça fait très, très mal. Donc, si votre question est-ce que c'est efficace, c'est-à-dire est-ce que ça va avoir un effet dissuasif, surtout dans un contexte de pouvoir d'achat, si je reviens à votre sujet, de pouvoir d'achat contraint, où les consommateurs arbitrent entre les enseignes,
où le grand public directement, Leclerc
communique beaucoup sur on a les prix les plus bas, je pense que ça sera très efficace. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose de sain ? Moi, je considère que c'est sain dès lors qu'il y a eu une infraction au droit, à la règle de droit. Par exemple, la DGCCRF, aujourd'hui, a le droit de faire du name and shame quand vous ne respectez pas certaines règles en matière de délai de paiement. Mm-hmm. Mais tout ça a été codifié. Si j'ose dire, il y a un acte d'accusation, vous vous défendez, vous êtes condamné, de même qu'à l'autorité de la concurrence. Il y a une sorte de véritable contradictoire. Là, c'est, écoutez, je vous convoque autour à mon bureau, si je n'obtiens pas gain de cause, je donnerai les noms. Mais où est la règle de droit ? Vous voyez, là, il y a un petit côté, moi, c'est plus ça qui me gêne.
Il n'y a pas de règle
pour
de
répondre
droit,
à votre question, non, oui, c'est très efficace. Par contre, moi, ce qui me choque, c'est quand même quelle sera la limite si je commence à faire ça pour les négociations commerciales. Demain, je peux dire à un autre lobby, bah, écoutez, si vous ne répondez pas à mes attentes, moi, je trouve ça quand même assez choquant d'un point de vue de...
Voilà, on sort un peu d'un cadre juridique.
C'est quand même très violent, c'est très violent, il faut qu'en contrepartie, en face, il y ait une infraction. Refuser de négocier, en tout cas de se mettre à la table et d'aboutir à des baisses de prix, c'est pas une infraction. Ça peut être tout simplement le résultat de la négociation. Donc ça me choque. Mais très honnêtement, c'est assez efficace.
Ouais,
donc,
ça marche. Ça marche. Mais juste, il y a un truc que je comprends pas, moi, sur ces histoires de négociation, c'est ce qu'on me raconte. Et bien, même j'avais vu ici le gars, le directeur de Super U, il dit, mais en Allemagne, la négociation, elle est libre, on négocie tout le temps.
Oui, ben, enfin, on revient à notre
sujet. J'ai jamais compris
c'est
pourquoi.
C'est
tout fini à Bercy, quoi.
C'est une exception française. Il y a une fenêtre.
J'adore Bercy, je trouve.
Une exception de la règle.
Alors, je ne pourrais pas vous dire.
Pourquoi tout fini à Bercy ?
Historiquement, pourquoi en France, on est l'exception par rapport aux autres pays où on a une séquence trimestrielle de négociations par an et après basta.
C'est toujours la même idée, hein. C'est que la libre négociation, c'est-à-dire le marché, la concurrence, c'est mal, et qu'au fond on va organiser le marché, on va l'organiser en fixant même la date de négo, hein, le 31.
Je me souviens, ça devait bénéficier aux agriculteurs. Je crois que c'était la loi Egalim.
Le Ruisse loi par
Egalim. À chaque fois c'est un échec quand même.
La loi Egalim a été voulue justement pour essayer de mieux rémunérer l'amont.
Pardon, Guillaume, tout ça est le même sujet que notre histoire de loyer. Enfin, je reviens à Bastia, hein. C'est cette idée française, parce qu'en fait on n'est pas très économiste quand on est homme politique, cette idée que la décision politique, la règle, va contraindre les comportements. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie. Et donc, on va rajouter soit de la règle, soit du name and shame. Et le name and shame, c'est quand même très problématique dès lors qu'il n'y a pas eu d'infraction.
Il s'appelle Robin Reda, il est Renaissance, et elle, Véronique Louwagie, elle est Les Républicains. Il ne faut pas avoir peur d'être tranchant avec l'inutile. Ils remettent demain un rapport contre le harcèlement textuel, pour la sobriété bureaucratique, pour enfin, avec un choc de simplification, parvenir à 15 milliards d'euros d'économies dans le fonctionnement de l'administration en France. Ils disent qu'il faut passer de la culture du contrôle à la culture de la confiance. Il faut exempter les villes et les villages du droit de regard systématique des préfets, notamment sur les projets d'urbanisme. Il faut créer le concept de territoire zéro contrôle pour libérer les élus locaux. Il faut imaginer peut-être suspendre le contrôle de l'égalité des collectivités, ce qui demanderait de réviser la Constitution. Il faut supprimer 3 normes dès qu'on crée une nouvelle norme. Il faut mettre fin au doublon entre les 38 opérateurs d'État qui concentre 400 000 emplois publics. Il faut réduire de 7 millions de mètres carrés les bureaux publics non utilisés. Waouh ! C'est du poitrinal dans le texte.
Mais c'est formidable.
Mais c'est formidable.
Et en fait, si Emmanuel Macron ne le fait pas en 2 septennats, alors que c'était lui qui était à l'origine du choc de simplification sous François Hollande, il travaillait à l'époque, il était numéro 2 ou 3 de l'Élysée. C'était pas rien. D'accord, c'est lui qui a demandé ce choc de simplification. Si Emmanuel Macron, en 2 septennats, ne mène pas cette réforme, je pense que toute la fin, toute sa retraite, sa post-truc, etc., il le regrettera. Ouais. Parce que lui a les pouvoirs de le faire. En fait, ce qui manque, c'est le comment, là. C'est le problème, pardon, c'est alors, que la volonté.
Mais tout est dans le comment.
Tout est dans le comment. Le sénateur d'Oliger dans les années 80.
Il est présenté comme un rapport de la méthode.
Non, mais bien sûr, le Conseil d'État a publié, tout le monde a publié là-dessus. C'est même, je vais vous dire, un consensus droite-gauche. Il n'y en a pas beaucoup des consensus droite-gauche écolo. Il n'y en a pas beaucoup.
Guillaume, je vous provoque un peu. C'est un travers très français. L'important, c'est le pourquoi. Et le comment, c'est l'intendance. Mais c'est l'intendance alors, commande tout. Comment tout est intendance.
En fait, ce sujet, j'en ai acquis la conviction. J'y ai quand même sacrifié 2 ans de ma vie.
Avec Thierry Mandon à l'époque, je me souviens.
Avec Thierry Mandon. Ce sujet de simplification administrative ne peut être conduite qu'au plus haut niveau. Pourquoi ? Parce que tous ces textes, en fait, tous ces moments de l'entreprise, de l'individu, où nous sommes confrontés à de multiples chefs, parce qu'il y a une démultiplication des autorités comme jamais, notamment dans les collectivités locales, avec le millefeuille, où ils sont obligés d'être 3, 4, 20, 25, 30 autour de la table pour décider d'un rond-point, si vous voulez, et puis les textes qui sont démultipliés, tout ça est interministériel. Donc vous ne le faites pas strictement à partir de l'Assemblée, d'un ministère, à partir de Bercy, comme ça a été tenté. Et vous ne le faites même pas à partir du Premier ministre. Le seul qui a l'autorité pour faire ça, c'est le Président de la République. Et il faut un étage à l'Élysée pour réformer d'un côté les structures, c'est-à-dire moins de chefs dans l'administration, moins de patrons. Il faut arrêter avec ces enchevêtrements de collectivités locales, d'un côté le maire, mais qui n'a pas tous les pouvoirs parce qu'en fait on l'a noyé dans une communauté de communes avec un président de communauté de communes qui n'est pas élu au suffrage universel et qui donc inévitablement est quand même dans le clientélisme pour ces sujets-là, avec un département, une grande région qui est énorme. La Nouvelle-Aquitaine, c'est grand comme l'Autriche. Donc qu'est-ce que vous voulez ? Vous occupez de Châtellerault depuis Bordeaux, c'est à 300 km et vous mettez ensemble dans une même région des Nord-Poitevins qui sont quasiment des Sud-Tourangeaux qui parlent un français le plus parfait avec des Basques qui voudraient ne pas parler le français. Donc c'est un vrai problème. Et là-dedans, vous rajoutez des Limougeaux du plateau des Mille Vaches. Non mais c'est une blague. Toute cette organisation administrative française est une blague. Et on a rajouté au-dessus de trop d'élus, on a rajouté trop de pouvoirs politiques et on a rajouté ces fameuses commissions indépendantes. L'autorité environnementale, par exemple, qui vient et qui n'est sous le pouvoir de personne. Vous n'avez aucun recours contre l'autorité environnementale qui vient faire des études faune et flore sur chacun vos projets et qui vous bloque un projet un an pour aller calculer le coléoptère et le lézard alors qu'on est au milieu d'une zone industrielle qui est polluée et qu'on va dépolluer 17 hectares et qu'on va rajouter 9 hectares de prairies, de terres pleines. Eh bien non, vous avez une autorité environnementale qui vous dit entre la flaque d'huile et le bout de pétrole, entre le béton et le bitume, j'ai trouvé dans une faille un coléoptère et derrière il y a peut-être un lézard à protéger. Voilà la France.
Ils veulent faire également ces deux élus à un état des lieux des 314 commissions et instances consultatives. Vous voulez réagir, Robin, là-dessus ?
Non, mais le seul sujet, c'est que enlever des normes, c'est très dur. Il faut d'abord enlever la source de la norme. Donc, il faut d'abord attaquer les organisations. Et c'est pour ça que ce ne sera jamais fait.
La source de la norme, c'est
soit
les commissions consultatives.
Il faut supprimer les gens qui...
Robin ne peut pas dire que ça ne sera jamais fait. Il est tout jeune. C'est pas possible.
En fait, le problème, ce n'est pas tellement la norme. C'est les gens qui, chaque jour, qui sont payés pour produire la norme.
Il y a un intérêt à faire de la norme.
Il y a des gens qui, chaque jour, arrivent dans les ministères autres, mais qui arrivent en voulant produire leur texte. C'est leur boulot. Le matin, ils sont payés. Ils se disent, je vais écrire un texte. Et ils produisent un texte. Et donc, aujourd'hui, si on ne supprime pas la source, ça ne sert à rien de toucher.
Et ce n'est pas qu'une histoire d'argent, Robin. Ce n'est pas qu'une histoire de poste. C'est la source du pouvoir. Parce que dès qu'il y a norme, il y a contournement de la norme, donc il y a contrôle. C'est une source de pouvoir. Donc, moi, je n'y crois pas une seconde.
Il n'y a pas une seconde à quoi ? Est-ce que ce rapport plus reproduit ?
Oui.
Alors, j'ai envie d'y croire.
Moi, j'y crois. Je laisse parce que je vais
vous dire. On a le droit de
Je laisse toujours sa chance au produit, Emmanuel.
Ouais, parce que les intérêts particuliers sont quand même plus forts que l'intérêt général.
J'y crois parce que
il n'est pas fini.
Un jour, on va avoir, à mon avis, et inévitablement, et sans attendre le grand soir de Koenig, nous allons avoir la réalité de la situation financière, des finances publiques qui va s'inviter dans le débat. Aujourd'hui, on continue à emprunter à 2 balles pour un déficit qui est colossal, 124 milliards d'euros de déficit de l'État.
On n'en déduira pas que c'est la faute de la réglementation. On vous dira qu'il faut taxer plus les riches. C'est pas ça qu'on vous dira.
Non, d'accord. Mais il y a un moment donné, on va devoir faire l'un et l'autre, comme en Grèce. L'un et l'autre. On va devoir faire l'un et l'autre. On va devoir faire les revenus. Pourquoi ? Parce que 124 milliards d'euros de déficit de l'État. Les amis, c'est 4 000 euros par foyer français. 4 000 euros par foyer français de déficit de Guillaume, l'État. Vous imaginez si on arrête ça ?
Guillaume, j'entends
votre point. Vous imaginez si on coupe ce robinet ? Ben, ce robinet, on va devoir le couper, les amis. Pourquoi ? Parce que les Allemands, eux, ils sont à l'équilibre. Et qu'à un moment donné, ils vont se rappeler à notre bon souvenir.
La limite de votre point, c'est que vous ne voyez les normes que sous l'angle du coût, et vous avez raison, hein, ça a été documenté en économie, c'est un impact négatif sur la croissance, vous ne voyez pas le gain qui est en face. S'il y a toutes ces normes, c'est qu'elles profitent bien à quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est toutes ces personnes qui, en effet, y voient une source de pouvoir, etc. Donc moi, j'y crois pas un instant. Il y a tellement d'intérêts en jeu. Regardez le rapport Attali. Enfin, moi, ce sont les sujets à moi
qui le vieux rapport Attali des années
60. Oui, 2007, qui faisait lui-même suite au rapport Armand-Rueff, où on nous expliquait qu'on allait. Ouais, mais justement, vous regardez aujourd'hui le rapport Armand-Rueff, la moitié de ce que disait sous le général de Gaulle, ça n'a pas bougé. Parce qu'à nouveau, vous sous-estimez, Guillaume, le fait qu'il y ait des intérêts. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure.
Ces intérêts, j'ai lutté 2 ans contre le lobby des experts comptables qui ne voulaient pas la simplification de la fiche de paye. Ils ont gagné. J'ai lutté contre. On voulait la suppression de la DAS2, déclaration des honoraires. On a eu une levée de bouclier de Bercy parce que, en effet, ça occupait des équipes qui étaient assez syndicalisées. Et donc, voilà. Mais on a quand même, si vous voulez, créer la déclaration sociale nominative. On a quand même supprimé une quarantaine de fichiers CERFA. On en a simplifié 100. Et tout ça, on l'a fait pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, il s'est trouvé que pendant 6 mois, on a été sous l'œil du projecteur et que tous les mois, on allait, avec Thierry Mandon, proposer au président de la République...
Et depuis, on a combien qui ont été recréés? Et depuis, on a combien qui ont été recréés?
Depuis, on a eu des chocs de complexité qui sont venus. Et alors, parfois, pour des bonnes raisons, l'environnement, d'accord que l'environnement, il faut le protéger, mais pas nécessairement à grand renfort de technocratie, de bureaucratie.
Et vous parlez des CERFA, et c'est mon camarade François Langlais sur LCI, un soir, qui avait fait une chronique assez croustillante. Il avait essayé de faire la démarche, lui, uniquement pour observer la démarche, d'une inscription au RSA. Eh ben, allez au bout du document, réussissez à comprendre tous les termes et réussissez à remplir votre truc correctement. Effectivement, c'est un peu Brésil. Hein. Bon, vous y croyez pas, moi.
Je pense que c'est. En plus, c'est un beau projet pour le président.
C'est un beau projet. Là où Guillaume a raison, c'est que parfois les planètes sont alignées et vous avez la réforme qui sort de nulle part à laquelle personne ne croyait. Je pense à la réforme des notaires. Hein, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Personne n'y croyait. Il l'a fait, Emmanuel Macron. Mais c'est le truc où il y avait une conjonction des planètes.
Les taxis. Bon,
Armand-Rueff, c'était dans
les taxis.
Les bus Macron.
Voilà, les taxis, excusez-moi, la réforme des taxis, la libéralisation, alors elle s'est faite aussi par le fait, mais l'autorisation d'avoir à la fois des taxis et Uber,
et par exemple,
les deux fonctionnent.
Eh bien, vous avez raison.
Les deux sont mieux.
Il y a eu deux grandes périodes, 2008, Novelli, Macron 2015, point barre.
Auto-entrepreneur.
2008, Novelli.
Mais c'est vrai que l'histoire des taxis est déjà dans le rapport Armand-Rueff 2009.
Mais oui.
5 minutes 25. L'État débloque une aide historique pour les semi-conducteurs. On apprend que 2,9 milliards d'euros vont être dédiés à la future usine de ST Microelectronics Global Foundries de Crolles, à côté de Grenoble, en Isère. Emmanuel Macron, lors de la grande semaine avec Choose Friends et préalablement ce qui s'était passé à l'Élysée dédié à l'industrie, a dit que maintenant ça avait assez duré. On allait faire comme les autres. On allait utiliser nos sous pour financer nos industries. C'est un changement de doctrine, dites donc.
Oui, enfin, ça fait un bout de temps qu'on l'entend, ce changement de doctrine. Là où je dis pas que j'ai des doutes, mais en tant qu'économiste, le vrai sujet n'est pas de savoir est-ce qu'on doit faire exactement comme les Américains. Hein. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec 3 milliards? Est-ce que c'est le meilleur choix possible? C'est toujours le coût d'opportunité. Alors oui, je fais une usine à Crolles, il faut sans doute s'en réjouir, hein, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire avec ces 3 milliards? Et en tant qu'économiste, je peux pas m'empêcher de penser à une chose, qui est de dire dans les semi-conducteurs, on est complètement en retard. Hein. En tout cas, on n'est pas à la pointe de la technologie par rapport au Taïwanais, par rapport aux Coréens. Par contre, on est très très bon sur les équipements de machines, on est même en monopole. Hein. Alors, c'est pas un Français, enfin c'est un Européen, c'est un Hollandais ASML, et je me dis toujours est-ce que finalement, dans la bataille mondiale, si je laisse de côté le cas chinois, hein, parce que c'est une bataille commerciale...
On n'a pas intérêt à subventionner ASML aux Pays-Bas.
Est-ce qu'on n'a pas intérêt à renforcer en tout cas les secteurs dans lesquels on est les meilleurs, premièrement. Secondement, et je le dis, je dis pas ça en critiquant ce qui a été fait, mais ça me fait quand même sourire quand on a tellement entendu en 2020, j'avais écrit à la Fondapol une note sur la souveraineté, où j'expliquerai la souveraineté, c'est choisir sa dépendance. Et tout le monde nous disait, mais non, la souveraineté, c'est quand on fait soi-même. Je rappelle que à Crolles, on fait une alliance, et c'est très bien, hein, avec Global Foundry, un Américain. à Dunkerque, c'est une entreprise de Taïwan. Intel va venir en Europe. Donc, au fond, la souveraineté, c'est pas des Français qui font des choses eux-mêmes. C'est la France ouverte sur le monde extérieur. Donc, c'est paradoxal. La souveraineté, c'est accepter, en réalité, de faire alliance avec des entreprises non européennes, pour qu'elles viennent. Et je m'en félicite, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est quand même assez amusant. On a tellement entendu la souveraineté, ça serait le made in France. Regardez à Dunkerque.
Le made in France, on peut considérer qu'à Dunkerque, c'est du made in France.
C'est fait en France. C'est fait en France avec un opérateur taïwanais.
Et
je le dis.
Oui, et qui met 5 milliards d'euros, qui va créer 3 000 emplois directs.
Comprenez bien, Nicolas. C'est très, très bien. Mais on m'a tellement raconté que la souveraineté, c'était nous allions faire soi-même. Et puis, troisième point.
Faut pas en rester uniquement à la marinière d'Arnaud Montebourg.
Bah ouais. Bon, et voilà. Si vous regardez. Ouais, mais on entend quand même beaucoup ça, hein. Et quand vous regardez l'usine de Crolles, c'est très, très bien. Moi qui ai fait ma thèse sur les semi-conducteurs, on va graver. C'est la finesse de gravure de 18 nanomètres. Et c'est très bien. C'est pour des semi-conducteurs pour l'automobile. Je vous rappelle que Samsung est en train de faire de la gravure à 3 nanomètres. Ce que je veux dire par là, on est dans du rattrapage, et c'est très bien. Je suis pas en train de dire
si ça marche. En tout cas,
on est en rattrapage technologique. Il faut pas nous vendre l'idée. Je dis pas qu'Emmanuel Macron vend ça, mais l'idée avec ces usines de semi-conducteurs, on va batailler avec TSMC. TSMC et Samsung ont des années d'avance sur nous. Voilà. Donc, sachons raison garder. Si. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que tout cet argent-là, certes, c'est très bien de le mettre dans le rattrapage, mais on peut aussi avoir un autre raisonnement qui est de dire, est-ce qu'on n'a pas intérêt à aller sur des innovations disruptives en prenant le leadership? Est-ce qu'on est si certain que ça, que les semi-conducteurs pour l'automobile sont forcément le truc le plus stratégique?
C'est quel point de vue développé par André Joseph-Croux Pietri il y a quelques jours, après notamment les prises de position exprimées par Thierry Breton dans les colonnes du Figaro sur l'Europe qui allait réguler, en l'occurrence l'intelligence artificielle?
Moi, je crois que la souveraineté, elle se déclare pas, elle se décrète pas dans le truc. La souveraineté économique, aujourd'hui, le boulevard de la France, c'est sa capacité à disposer d'une énergie décarbonée. En fait, à l'avenir, d'ici une dizaine d'années, de toute façon, on va compter le carbone au grain de près dans toutes les économies, dans tout ce qu'on va acheter. Donc la France, si elle voulait profiter de ça, elle dirait, attendez, la Chine, 70% de l'électricité chinoise est issue du charbon. Donc vous imaginez le mix carbone d'un produit qui a été fabriqué en Chine, qui est transporté jusqu'en France, qu'il s'agisse d'ailleurs d'une cellule photovoltaïque, d'une paire de tongs ou d'un élément de carrosserie ou d'une bagnole. Si vous, à partir du moment où 70% de l'énergie, eh bien il faut le dire, il faut... Là, pour le coup, c'est du name and shame. Il faut un étiquetage carbone. Le jour où on a un étiquetage carbone, l'industrie française, si elle fonctionne avec le nucléaire...
C'est par Emmanuel Macron.
Et là,
le carbon score.
Eh bien, il le faut, et très vite. Pourquoi ? Ça, c'est la vraie souveraineté économique et industrielle de la France. C'est de dire, messieurs les industriels du monde entier, venez ici, vous avez une énergie nucléaire, donc propre. Cette énergie nucléaire, elle est pilotable. Cette énergie nucléaire, elle est continue. Monsieur Messmer a eu une lumière entre 74 et 84. Il ouvre 32 réacteurs. Il a eu une lumière. Eh bien, profitons-en et surtout reconstruisons des réacteurs nucléaires le plus vite possible.
Ah, mais Guillaume, vous êtes d'accord, la souveraineté, le paradoxe, c'est que c'est la capacité à attirer des investissements étrangers.
Bien sûr.
Mais c'est formidable. Hein. Mais c'est pas ce
j'ai
qu'on
pas le temps de traiter le sujet, mais j'aurais bien voulu parce que je sais que ça passionne Romain. Mais vous voyez, quand on a un peu de retard dans un domaine, bah, en Europe, on régule.
Oui.
Histoire de se donner de l'avance.
Voilà. Histoire de se donner de l'avance. Merci à vous trois d'avoir été là. Quelqu'un m'écrit, ça fait du bien, une bonne dose de bon sens.
Merci.
Bon. Eh bien, Emmanuel Combes, Robert Rivaton, Guillaume Poitrinal, rendez-vous demain 9h.